John Galliano est le maître incontesté du polygraphe au pays. Au cours de sa carrière, il a joué un rôle primordial dans plusieurs affaires policières qui ont fait les manchettes. Le 18 décembre 1979, un agent d'une compagnie de transport sécurisée est froidement abattu à Hull lors d'un vol. Un informateur contacte les policiers, affirmant connaître les coupables.
Sans avoir de dossier judiciaire, c'est un gars qui se mêlait de différentes choses. Un gars qu'on dit « borderline ».
On demande à l'informateur de passer un test polygraphique. L'homme qui se présente devant John Galliano semble digne de confiance.
Un beau sourire, bonne poignée de main, un gars aimable. Genre de gars que tu voudrais présenter à ta sœur. Et ça, c'est dangereux, parce que ces gars-là peuvent t'induire en erreur.
Le 18 décembre 1979, un agent d'une compagnie de transport sécurisée est froidement abattu à Hull lors d'un vol. Un informateur contacte les policiers, affirmant connaître les coupables.
C'est un petit peu différent d'un délateur. Un délateur, c'est une personne qui est impliquée dans le crime et qui vient témoigner à la cour. Fait que lui, c'est un informateur. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il renseigne les policiers sur de l'information très valable qui pourrait amener les enquêteurs à suivre un groupe d'individus et à les mettre sur écoute électronique.
Un informateur, ça peut être un simple citoyen. Il y en a d'autres, c'est des gens qui vont provenir du monde criminel, qui vont donner de l'information moyennant contribution financière. C'est pas lui qui va nous emmener à résoudre une enquête. C'est un morceau du puzzle qui va nous permettre de compléter l'ensemble.
L'affaire est hautement médiatisée et l'informateur affirme avoir obtenu de précieux renseignements dans le cadre de son travail.
C'est un gars qui coiffait des gens pas trop catholiques. Et à ce moment-là, lui était convaincu que c'était un clan du groupe d'Ottawa qui était connu pour faire des vols de camions blindés. D'ailleurs, ces gens-là auraient fait des vols de camions blindés aux États-Unis. Donc, il est très connu. Donc, il renseigne les policiers en question. Lui, comme coiffeur, il a changé la couleur des cheveux de ces gens-là.
L'histoire racontée aux enquêteurs par leur informateur semble crédible, à une exception près, mais qui est loin d'être un détail.
À un moment donné, il avait vu sur la table des sacs d'argent avec le nom de la compagnie sur les sacs d'argent. Sauf qu'en réalité, ça devait être le nom d'une autre banque et non pas le nom du transporteur.
Les compagnies préfèrent et offrent, bien entendu, de fournir ou de rendre accessibles les sacs. Mais il y a aussi l'option, pour certains clients commerciaux, d'utiliser leurs propres sacs.
Malgré cet élément qui ne concorde pas, les enquêteurs accordent tout de même une certaine crédibilité à l'histoire racontée par leur informateur.
Pour établir la crédibilité d'un informateur, premièrement, on va regarder avec qui on parle. Est-ce que c'est un honnête citoyen? Est-ce que c'est un criminel? Quelle est son intention? Quel est son but de nous donner de l'information? Pourquoi qu'il nous donne de l'information? Et ce qu'il y a de très important aussi, c'est de connaître si cette personne-là est impliquée dans le crime sur lequel elle nous donne des informations. Parce que s'il est impliqué, bien là, on peut se dire que l'information est bonne.
Quand on se pose les trois questions, sont-ils capables, besoin et opportunité? Ça, c'est des gens qui étaient dans la région. Capable de le faire, absolument. Besoin, c'est des gars qui ont toujours besoin d'argent. C'est que c'est... Ils étaient right on, comme on dit, là. C'était réellement des gars capables de faire ça.
Pour s'assurer que leur informateur ne les entraîne pas sur une fausse piste, les enquêteurs au dossier lui proposent de passer un test polygraphique en compagnie de John Galliano. L'homme accepte non sans une certaine résistance.
Il faisait une bonne impression. Puis ils ont demandé de se soumettre au test. Quoi, vous ne croyez pas? Non, regarde, c'est pour backer notre affaire, backer nos demandes, puis on va mettre l'écoute et la filature sur ces gens-là.
Le polygraphiste vient vraiment comme élément complémentaire aux outils qu'on utilise déjà. Parfois, à force de travailler sur un dossier, il y a des éléments qui pourraient nous échapper. Lorsqu'on amène un œil expert, indépendant, parfois, il nous amène sur des nouvelles pistes où il met en lumière des éléments qu'on a vus, mais que peut-être qu'on n'a pas mis assez d'emphase dessus. Et finalement, ça nous permet souvent de confirmer des faits.
L'homme détient des informations sur un vol survenu le 18 décembre 1979 au centre commercial Terrasse Lachaudière à Hull. Un peu après 11 heures le matin, Maurice Prudhomme et un collègue transportent à pied 350 000 $ en direction de la Banque de la Nouvelle-Écosse.
Dans les années 70-80, ce qui caractérisait l'industrie du transport de valeur, c'était particulièrement un travail qui était effectué de jour. Il y avait beaucoup de transactions, bien évidemment, en argent comptant. C'était le mode de paiement à cette époque-là. Et c'était vraiment, donc, un marché hybride entre les clients commerciaux, donc les centres commerciaux, ou les clients institutionnels, que ce soit des clients bancaires ou gouvernementaux.
Des hommes armés ordonnent à Prudhomme et à son collègue de ne plus bouger. Même s'ils obéissent, on leur tire dessus, atteignant à deux reprises le jeune père de famille de 31 ans. Les malfaiteurs s'emparent ensuite du butin et prennent la fuite. Maurice Prudhomme ne survivra pas à ses blessures.
Lorsqu'on perd un collègue de travail, les impacts sont importants. Ça fait vraiment l'effet là, d'un onde de choc, entre autres à cause de la relation étroite souvent qui existe entre les employés. Et lorsqu'arrive un incident grave, on se sent tous un peu touchés parce que ça aurait pu nous arriver. On se demande souvent pourquoi c'est arrivé à cette personne-là et pas à nous. Donc, il y a un paquet de questions qui nous viennent à l'esprit. Les risques dans l'industrie étaient plus élevés dans les années 70 et 80. Entre autres, à cause de la formation n'était pas la même, les outils n'étaient pas les mêmes, les véhicules n'étaient pas les mêmes. Il y a un ensemble de facteurs qui étaient différents à cette époque-là par rapport à aujourd'hui.
Tentez-vous de cacher des informations que les enquêteurs doivent savoir concernant ce dossier? Il y avait des réactions.
En décembre 1979, suite à un vol de 350 000 $ et au meurtre d'un employé d'une compagnie de transport d'argent, un homme affirme détenir des informations pouvant mener à l'arrestation des coupables.
La compagnie en question offrait une récompense de 100 000 $. On parle des fin des années 70, début des années 80.
Dans l'industrie, je vous dirais que lorsqu'arrivent des incidents, tous les efforts sont mis pour résoudre cet incident-là et pour trouver les personnes coupables. Donc, on peut penser à ce moment-là que tous les moyens sont utilisés, incluant, bien entendu, des récompenses.
Pour confirmer ses dires, les policiers l'invitent à passer un test polygraphique. John Gallienos reçoit l'informateur de la police dans son bureau. L'homme a accepté de se soumettre au polygraphe. L'homme que John Gallienos a devant lui n'est pas du tout suspecté par les policiers. Au contraire, il dit détenir de précieuses informations pouvant rapidement faire débloquer l'enquête.
Quand il se présente très bien. Beau sourire, bonne poignée de main, un gars aimable. Genre de gars que tu voudrais présenter à ta sœur. Genre de gars que tu voudrais prendre une bière avec. C'est un gars que s'il m'aurait dit, écoute, j'aime ça jouer au hockey, bien, viens-nous jouer avec nous autres les samedis soirs. Tu sais? Très présentable. Puis ça, c'est dangereux, parce que ces gars-là peuvent t'induire en erreur.
John Gallienos en a vu d'autres. Il sait très bien que l'attitude positive de son interlocuteur ne garantit en rien qu'il dit la vérité. Surtout que l'homme qu'il a devant lui, sans être un criminel, n'est pas non plus au-dessus de tout soupçon.
Sans avoir de dossier judiciaire, c'est un gars qui se mêlait de différentes choses. Fait qu'un gars, comme on dit, borderline, tôt sa ligne. T'sais. Puis il était bon ses deux bords. Il était bon avec les policiers, puis il était bon avec les gens du crime. Il était sa ligne.
Contrairement à plusieurs personnes qui se présentent dans le bureau de John Galianos, l'informateur ne semble pas du tout intimidé par le test polygraphique.
M. Dehaul, quand il rentrait, là, il avait pas de l'air craintif, le test. Il avait l'air bien. C'était un gars habitué à parler avec le monde. C'était un coiffeur. Ça fait qu'il parle à tous les jours. Ça fait que quand il arrive avec moi, il n'y a pas grand changement pour lui. Là. Il n'y a pas grand changement. Puis lui, on ne le soupçonne pas d'avoir commis un crime. Le pire qui peut arriver pour lui, c'est que, bon, il n'aurait pas son 100 000. Mais il ne semble pas avoir peur d'aller en prison.
Comme le veut la procédure, le polygraphiste débute l'entretien par une entrevue pré-épreuve servant à s'assurer que la machine est bien calibrée pour le test. Déjà à cette étape du processus, il se fait généralement une opinion sur son interlocuteur, mais cette fois-ci, ça s'avère impossible.
Je me souviens très, très bien. Il était neutre là-dessus. Puis je me disais, quel bord qu'il va pencher? Je regarde toujours ça. Sur quel bord qu'il va pencher? Puis je me fais un point d'interrogation. Quand il répond bien, je me fais une flèche vers le haut. Il répond bien là-dessus. Il répond mal, flèche vers le bas. Je me suis mis un point d'interrogation.
Si l'entrevue pré-épreuve s'est avérée non concluante lors du test polygraphique, il ne fait aucun doute pour John Galianos que l'informateur de la police de Hull ne dit pas toute la vérité.
Surtout la question, m'avez-vous maintenant raconté toute la vérité concernant cette affaire? Tentez-vous de cacher des informations que les enquêteurs doivent savoir concernant ce dossier? Il y avait des réactions.
À la fin des années 70, le polygraphe est déjà un appareil efficace. Mais comme il n'existe pas encore de logiciel pour l'analyse des résultats, l'interprétation des graphiques repose uniquement sur les épaules du polygraphiste. Malgré tout, le test que John Galianos effectue sur l'informateur de Hull est d'une grande efficacité et les résultats sont sans appel pour lui. L'homme ment. Fidèle à son habitude, il examine les graphiques en compagnie de son interlocuteur, lui indiquant clairement les questions où il a remarqué une activité inhabituelle.
Je n'ai pas eu le choix que le questionner là-dessus. Lui dire, en lui montrant les questions, puis en lui montrant les graphiques. Les graphiques, ils l'ont trahi. Lorsque j'ai présenté les graphiques, ça n'a pas pris de temps à y avouer, avoir inventé ça.
L'aveu est un élément très important pour le polygraphiste. Pour dissiper tout soupçon sur les résultats du test, John Galianos doit absolument faire admettre à son interlocuteur qu'il lui a menti.
Lorsqu'une personne n'avoue pas, il y a toujours ce petit doute. Oh, est-ce que le polygraphiste s'est trompé? Il y a toujours un doute parce que le test polygraphique n'est pas 100%. Tout ce qui touche la nature humaine n'est pas 100%. Le seul temps que le test polygraphique est 100%, c'est lorsque la personne te dit « D'accord, j'ai menti. Je vais vous montrer où j'ai caché le cadavre. Je vais vous montrer où j'ai caché le couteau. Je vais vous montrer où j'ai caché l'argent. » À ce moment-là, c'est 100%.
John Galianos est un maître dans l'art d'obtenir des confessions. Il sait très bien que la confrontation donne généralement de mauvais résultats.
La façon que je l'ai abordé, j'ai donné une question alternative. Est-ce que c'était dans le but de tromper la justice ou c'était tout simplement parce que tu voulais aider la justice et tu étais convaincu que c'était ça? Il a sauté sur cet aspect-là.
John Galianos, c'est quelqu'un de très passionné, c'est quelqu'un de professionnel, c'est quelqu'un qui a une capacité à connecter avec les gens. Et lors des entrevues, lors des enquêtes, c'est un élément qui est fondamental pour être en mesure là, de vraiment aller au fond des choses et de nous permettre de clarifier soit des questions qui sont ambiguës ou de valider des faits qu'on a déjà entre les mains. Donc, dans ce sens-là, c'est vraiment un support important au travail qu'on effectue.
L'homme admet avoir menti en faisant sa déclaration aux policiers, mais il n'en démord pas. Il est convaincu que les gens qu'il a pointés sont réellement coupables du meurtre de Maurice Prudhomme.
Il dit, je suis convaincu que c'est l'autre. Ouais, mais la couleur des cheveux. Ben, j'ai déjà coupé les cheveux de ces gars-là. Mais quand tu nous dis, dans telle date puis telle date, tu as coupé les cheveux, là. Non, ça, c'est faux, ça. Mais c'est quoi la raison? Pourquoi avoir inventé ça? Je vais vous dire pourquoi, parce que je suis convaincu que c'est eux autres. Puis en disant ça, c'est pas assez. Faut que je le prouve que c'est eux autres. Et avec ça, ils vont mettre de l'écoute, puis ils vont mettre de la filature. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir avoir mon 100 000. Tout simple que ça, monsieur.
Peu importe ses certitudes, le coiffeur a fourni de fausses informations aux policiers qui auraient pu perdre un temps précieux à enquêter sur les mauvaises personnes. Il pourrait en subir les conséquences.
Toute personne qui donne des fausses informations à un enquêteur ou n'importe quel membre des forces de l'ordre commet un acte criminel. En fin de compte, c'est une entrave à la justice.
L'homme que John Galianos a rencontré s'est avéré être un excellent menteur, au point même de faire douter le spécialiste. Mais il n'a pas été capable de tromper la machine.
Il a pointé des gens capables de faire ça. Mais le test, à ce moment-là, l'a démasqué là-dessus. Puis ça a été heureusement. Puis ça aurait été une perte de... Ça coûte cher, la filature. Puis ça coûte cher, mettre l'écoute électronique. Alors que la filature puis l'écoute, ça pourrait être mis sur d'autres personnes, sur d'autres groupes concernant d'autres crimes.
L'informateur de la police de Hull n'a pas dit toute la vérité. Mais ça ne veut pas dire que les hommes qu'il a dénoncés sont innocents. Les enquêteurs demeurent dans l'incertitude, sans piste réelle, et pendant ce temps, le meurtrier de Maurice Prudhomme court toujours.
Es-tu capable de m'aider là-dedans? J'ai quelque chose de bon. Ah oui, comme quoi? Fusillade à Hull, gardien. Ah oui, t'as quelque chose là-dedans? Ouais. Ouais. Ça se peut te passer au polygraphe là-dessus, n'importe quand, monsieur.
En décembre 1979, un homme affirme détenir des informations pouvant mener à l'arrestation des criminels ayant volé 350 000 $ et assassiné un employé d'une compagnie de transport sécurisé. La compagnie offre 100 000 $ pour toute information menant à l'arrestation des meurtriers. Mais le test polygraphique de John Galianos révèle que l'informateur ne dit pas la vérité.
Lui, son intention, c'est d'avoir de l'argent. C'est uniquement ça.
Les policiers doivent reprendre leur enquête afin de trouver les coupables en étroite collaboration avec les enquêteurs de la compagnie.
Moi, dans le temps, là, je me souviens avec cette compagnie-là. Le gars responsable de la sécurité, c'est un ami, je le connais. C'est des bons travailleurs. C'est des gens qui font le Canada. Des super enquêteurs. Très bons enquêteurs, des gars consciencieux. Puis je peux vous dire qu'il y a une très bonne coopération avec la police.
Le travail des enquêteurs démontre rapidement que le gang d'Ottawa ciblé par leur informateur n'est pas impliqué dans le crime. Il faudra attendre plusieurs mois pour que des développements surviennent dans cette affaire.
Suite à ce test, les enquêteurs ont donc abandonné cette piste. Et quelques temps après, ils ont développé un nouvel informateur. Cette fois-ci, de la région de Montréal, qui a donné de l'information. Et l'information très valable.
L'informateur en question s'appelle Bernard Provençal, membre d'une célèbre famille criminelle. Il est arrêté pour trafic de drogue au début des années 80. Afin de réduire sa sentence, il devient délateur, impliquant même des membres de sa propre famille. Il accepte de fournir aux policiers des renseignements sur le vol survenu aux terrasses La Chaudière en 1979.
Et ce qui arrive souvent également, c'est quelqu'un qui est appréhendé pour quelque chose. Donc, il y a quelque chose pour bargainer. On parlait avec la police, vous dites, écoute, si je te donne ça, là, es-tu capable de rappeler les accusations de ma blonde? Es-tu capable de m'aider là-dedans? J'ai quelque chose de bon. Ah oui, comme quoi? Fusillade à Hull, gardien. Ah oui, t'as quelque chose là-dedans? Ouais. Ça se peut te passer au polygraphe là-dessus, n'importe quand, monsieur.
Provençal n'aura pas à passer un test polygraphique, car il donne aux enquêteurs des informations que ces derniers jugent crédibles. Il accepte même de témoigner en cours.
Et le type en question n'était pas seulement informateur, il est devenu délateur. Et suite à sa délation, la police a arrêté Gilbert Bouvier et Claude Millette pour le crime en question.
La présence d'un délateur peut certainement aider le travail des enquêteurs et des procureurs, mais elle n'est cependant pas synonyme de condamnation.
Lorsque la couronne décide d'utiliser ce qu'on appelle couramment maintenant un témoin repenti, ce qu'on appelait avant un délateur, ça devient une arme à double tranchant. Parce que, à prime abord, la couronne va penser qu'ils ont gagné le jackpot, là. Ah, on a quelqu'un qui est très familier avec le crime en question, qui a même participé au crime, qui va nous donner des informations privilégiées par rapport à tous les autres accusés dans ce crime-là. Par contre, ça arrive souvent qu'un procès avorte parce qu'on se rend compte que le témoignage est complètement fabriquée.
Malgré tout, le témoignage de Bernard Provençal est jugé crédible. Gilbert Bouvier et Claude Millette sont reconnus coupables du vol de 350 000 $ et du meurtre de Maurice Prudhomme. Bouvier deviendra à son tour délateur et grâce à son témoignage, d'autres complices seront aussi jugés par la suite.
Un témoin repenti va être particulièrement utile pour la Couronne lorsque celui-ci pourrait venir corroborer d'autres preuves qu'on peut qualifier d'indépendants ou d'autres preuves matérielles. On peut parler de filatures, on peut parler d'écoute électronique. Par contre, juste le témoignage d'un délateur, c'est souvent pas assez pour que la Couronne puisse obtenir un verdict de culpabilité.
John Galianos n'a pas pu aider les policiers à mettre la main sur les coupables dans cette affaire, mais en décelant le mensonge de leur informateur, il aura évité aux policiers de Hull et aux enquêteurs de la compagnie de mettre leurs énergies sur les mauvaises personnes.
La question qu'ils vont me demander, quelques émissions de TV, est-ce qu'on peut battre le test? Je dis oui, avec un bat de baseball. Ou tu te présentes pas au test. Parce qu'il y a des gens qu'on a tendance à devenir tellement bons menteurs qu'ils vont, peuvent faire ça à travers un test polygraphique. Ah, ça va pleurer avec toi, ils vont tout faire, puis ils sont crédibles au bout. Ils sont habitués de masquer l'extérieur. Mais ils ne sont pas habitués de masquer l'intérieur. Personne ne pratique à masquer l'intérieur. On pratique l'extérieur. Le poker face, hein?